Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en période de confinement, chez nous, au chaud, sous un plaid. Et pour ce faire, j'ai deux chroniqueurs chez eux, au chaud, sous des plaids. J'ai la reine du plaid, Perrine Quenson.
Hello, mais comment tu sais, il y a une caméra chez moi, c'est trop bizarre.
Et le roi du pyjama sexy, Hugo Alexandre.
Salut Daniel.
Comment allez-vous tous les deux?
Très bien, parfait. Enfin, fin de confinement, donc un peu sur les nerfs, mais...
Ouais, puis en plus, cadeau de Noël dans la tête, alors c'est relou, quoi. C'est-à-dire que tu sors et tu fais « Oh putain, il y a ça à faire ». Voilà.
Ah, c'est vrai. C'est ça les comédies de fin d'année là, qui arrivent, là, qui, avec les Pères Noël, je me disais bien. Il y avait un signe, ça annonçait quelque chose. Plus en novembre, Noël en décembre, comme on disait dans ma famille. Eh bien, écoutez, on est réunis aujourd'hui pour parler des comédies qui vont sortir. Et alors, j'ai l'impression d'avoir fait déjà cet épisode, mais comme les films se décalent à chaque fois, eh bien, c'est jamais les mêmes films qui doivent sortir au moment de la reprise. Donc, on a toute une nouvelle flopée de films qui devraient, et je parle en gros avec des grosses guillemets, qui devraient sortir à partir du 16 décembre, donc à la date de reprise des cinémas. Est-ce que vous êtes impatient?
De retourner au ciné, oui. Oui, ça oui. De ouf.
Oui, moi aussi. Après, je sais pas du tout quels sont les films qui vont sortir, donc je prendrai ce qu'il y a.
Alors, je veux pas te spoiler, mais ça commence dès la première semaine. Et la première semaine, donc c'est le 16 décembre, il y a Mandibule. Donc, on reprend la saison cinéma. On va faire comme si 2020 n'était jamais arrivé, avec grâce à Quentin Dupieux, qui est une comédie fantastique, où c'est l'équipe du Palmacho qui se trouve, qui rencontre une mouche géante et l'apprivoise. Je peux pas résumer mieux c'est le pitch tel qu'il nous est livré, et il décide de se faire des thunes avec en lui faisant faire des tours. Qu'est-ce que vous en pensez, Perrine? Je sais que t'as souvent vu les films avant.
Ouais, mais je n'ai pas vu Mandibule.
D'accord, ok. Parce que faut l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Perrine, c'est un peu Trunks du futur. Elle est venue dans le passé pour nous dire quels sont les bons films en général. Donc Mandibule, tu l'as pas vu. Est-ce que ça te tente?
C'est toujours pareil, moi, avec Quentin Dupieux. C'est-à-dire que c'est un peu la roulette russe pour moi. C'est-à-dire que c'est soit je vais être très très enthousiaste façon reality ou réalité ou le dain ou au poste, soit je vais juste avoir envie de taper des gens avec comme Wrong, où ça vraiment j'ai failli me jeter sur l'écran avec un cutter.
Oh, ah ouais, donc ça te pousse à la violence.
Ah, vraiment à une violence physique contre moi, contre le monde, contre le cinéma.
Mais pourquoi?
Je pense que c'est du foutage de gueule, et que vraiment à un moment donné les blagues entre les inner jokes là, je sais pas quoi, les private jokes, c'est bien que ça reste private, quoi. J'ai pas du tout envie qu'on me force à regarder ça, donc
je pense que c'est plutôt des private jokes avec lui-même, en fait. Je pense que personne le comprend sauf lui, et du coup
que ça reste dans sa tête, ouais, là, parce que franchement moi j'ai l'impression de regarder les petits mouchoirs, mais en weird, et donc ça me gonfle, donc je peux pas.
Les weird mouchoirs
ouais. Donc les Mandibules, moi le pitch me... Je suis au taquet sur le pitch, quoi. Je
les comédiens ont l'air chouettes,
les comédiens
en plus.
Géniaux. L'idée d'Adèle Exarchopoulos, qui passe son temps à gueuler parce qu'elle a un problème de surdité lié à un accident, qui a l'air complètement loufoque. Moi, je me dis pourquoi pas, ça peut être très rigolo. Et elle a prouvé dans La Flamme quand même sacré humour, une capacité d'humour, une capacité comique très très forte. Donc je me dis, et puis le Palmacho, 100% oui. Donc non, je suis ultra ultra curieux sur Mandibule, ouais. Puis 1h10. C'est parfait.
Et toi aussi, est-ce que Hugo, toi, 1h10, alors tu sais quoi, c'est Quentin Dupieux. Hein.
Oui, ça peut être
1h10.
C'est un argument de masse, hein, quand même.
Ça peut être 1h10 très très longue, ou peut être 1h10 absolument génial, où tu vois, où tu as un tout petit moment de mou au milieu, mais en général, 1h10, c'est bien tassé. Mais c'est aussi ça, hein, de faire des concepts très vite et de tourner à la chaîne. Hugo, est-ce que toi, tu y vas avec les deux bras, les deux pieds en avant?
Ah, pour une fois, c'est moi qui reviens du futur parce que j'ai vu Mandibule.
Ah.
Et je pense que j'y retournerai parce que je vais toujours voir au moins deux fois les films de Dupieux parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a plein de richesses dans ces films, donc ça gagne toujours à être vu. Là, en fait, j'aurais tendance à dire que tout est déjà dans la bande-annonce.
Ah.
Mais je ne dis pas ça de manière péjorative. C'est-à-dire que je trouve que la bande-annonce est géniale, en fait. Ça donne plein de promesses. Mais il n'y aura pas beaucoup plus dans le film, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a le personnage d'Adèle Exarchopoulos, on a compris son truc, et donc du coup, ça n'ira pas vraiment beaucoup plus loin, même si c'est très drôle. Et voilà, donc le pitch est fort, et il déroule ce pitch jusqu'au bout, quoi. Et je trouve que par rapport à ses précédents films, il s'est amélioré sur l'aspect construction, structure du film. Et pour une fois, il y a un début, un milieu, une fin, et ça paraît cohérent, quoi. C'est-à-dire, en général, il a du mal à finir. Et là, je trouve que c'est bien tenu du début à la fin. Donc, c'est une très bonne comédie, très drôle. Il n'y aura pas énormément de surprises, mais je le conseille et j'y retournerai.
Enfin, il n'y aura pas plus de surprises que deux mecs qui adoptent une mouche géante et qui sont de bublés avec.
C'est ça. Voilà. Ce qui est déjà pas mal.
Alors, la semaine d'après, parce que ça reprend tout de suite, la semaine d'après, donc on est déjà au 23 décembre, il y a une comédie dont j'ai vu 15 000 fois la bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé 10 000 fois sur cette bande-annonce. C'est Tout nous sourit avec Elsa Zimmerstein et Stéphane de Groot. Et je vous dis le pitch parce que c'est un plaisir de comédie française, franco-française, j'ai envie de dire. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté avec leur amant respectif. Sauf qu'ils ont la même idée, aller dans leur maison de campagne. Donc, vous avez compris le truc. Ça va être un couple qui va venir avec chacun avec son amant, et puis ensuite il va voir la belle famille qui va débarquer et tout ça, et ça va être une jolie petite rumba, j'ai envie de dire. Il y a Elsa Zimmerstein, il y a Guy Marchand, il y a Stéphane de Groot, il y a voilà, c'est
Guy Marchand.
Ouais, Guy Marchand qui va sans doute jouer le papa, hein, enfin le grand-père.
Ça j'aime bien.
Et voilà, c'est un peu ce que j'aime dans les comédies, c'est-à-dire c'est ce besoin un peu de nous montrer aussi qu'ils ont beaucoup d'argent pour avoir une maison secondaire et pour se faire des petits week-ends chacun à côté, puisque ça veut dire que les enfants sont gardés. Et je peux vous dire que c'est une problématique que je comprends en ce moment. Hugo, est-ce que ça te tente, toi ?
Pas du tout. Pour le coup, j'ai vu la bande-annonce zéro fois. Le pitch me tente pas. Après, Elsa Zilberstein, depuis quelques années, je la trouve très drôle.
Enfin, elle a un vrai potentiel comique.
Ouais. Ouais.
Et j'aime bien Guy Marchand, second rôle. Après, Stéphane de Groot, un peu moins. Donc, j'irai le voir s'il y a que ça. Mais comme ça, je suis moyennement hypé, disons.
Écoute, il n'y a pas que ça, mais je ne spoil pas. Et toi, Perrine, est-ce que ça te tente?
Bah, c'est vrai qu'on revient un peu à des schémas un peu classiques. J'ai envie de dire que les Britanniques ou les Américains, s'ils voient ça, ils diront « Ah, oh, that's so French ». C'est vrai que les idées des amants chacun n'est pas vraiment cachées plus que ça. Tu dis ils sont riches parce qu'ils ont une maison secondaire. Pourquoi pas? En tout cas, je trouve ça très proche du confinement. Moi, je trouve qu'ils sont peut-être riches, mais en tout cas, ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour aller tous les deux dans leur résidence secondaire. Mais voilà, enfin, après, c'est... Soit ils ont réussi à faire un truc de situation, c'est-à-dire des vrais gags de situation, un petit peu vaudevillesque. Pour le coup, encore une fois, très franco-français. Moi, je dis pourquoi pas. Après, j'ai un peu peur que ça tourne vite. Vite, vite en rond, quand même.
D'accord.
D'ailleurs, qui et au théâtre filmé, quoi.
Qui écrit et réalise?
C'est Mélissa Drijard.
Enchantée.
D'accord. Et ça me dit quelque chose, le nom, mais...
Qui avait sans doute écrit... J'ai rien sur la fiche. Qui a sans doute participé à Bis. Je vois rien d'autre. C'est sans doute une autre. Est-ce que c'est son premier film? Ouais, peut-être, possible.
Ah si, elle a fait Jamais le premier soir.
Ah, elle a fait Quadra, qui est une série que je ne connais pas.
Mais là,
c'était elle Jamais le premier soir,
qui était pas ouf. Je crois qu'on l'a
avait connu.
Ah non, c'était pire que pas ouf. C'est une des plus mauvaises comédies que j'ai vues cette année-là.
C'était avec Alexandra Lamy, c'est ça?
C'était avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutet, Julie Ferrier.
Oh oui, oh là là, mais c'était même vulgos.
Alors, non, c'était un petit peu vulgos. Et est-ce que, au témoin d'un doute, c'est bien celle-là où, à la fin, Alexandra Lamy sort avec Jean-Paul Rouve? Je pense que c'est une des scènes les plus creepy de l'histoire du cinéma français, où Alexandra Lamy se fait pécho, ou elle pécho, Jean-Paul Rouve, dans une librairie, et il y a zoom arrière, et là, il y a tout le quartier qui est en train de regarder dans la vitrine de la
librairie. Oui, les libraires. Où elle est libraire,
je sais plus.
J'ai déjà montré cette scène à des gens, genre juste cette scène, j'ai dit expliquez-moi ce qui est en train de se passer. Et les gens en général sont vraiment perplexes. Et je sais pas, est-ce que le but c'était de créer un peu le malaise? Si c'était ça, c'est réussi. Et en plus, c'était une comédie avec Julien Boisselier, ton petit chouchou Hugo.
Ah oui. Moi aussi, t'inquiète pas, je suis avec toi.
Ah ouais. Bon, d'accord. Bon, écoutez, tout nous sourit, peut-être pas, mais en tout cas, le même jour, il y a une comédie qui s'appelle Le Discours, qui est nettement plus attendue. Puisque c'est une adaptation d'un roman de Fab Caro.
Ouais.
Et alors, je suis sûr que Trunks du futur, à savoir Perrine, je suis sûr que tu l'as vu.
Ça, je l'ai vu. Et je pensais que c'était quasi impossible d'adapter Fab Caro, que j'adore lire, par ailleurs, en bande dessinée ou en roman. Et je dois dire que le film de Tirard, de Laurent Tirard, est une grande, grande réussite. C'est-à-dire qu'il arrive à choper l'essence du livre, tout en respectant très très bien le livre, c'est-à-dire que vraiment on rejoue les scènes comme ça qui se passent dans la tête du personnage, mais c'est enlevé, c'est rythmé, c'est terriblement drôle, terriblement émouvant, et tout ça c'est dû notamment à Benjamin Laverne, en fait, qui est de tous les plans, qui est au centre du film, et on le savait déjà que Benjamin Laverne était un extraordinaire comédien. Mais là, c'est juste qu'il lui fallait ce genre de premier rôle tout à fait essentiel où il n'y a que lui, en fait, même s'il est aidé par des super comédiens. Tout le monde est très bien et très juste à sa place, notamment Julia Piaton, je tiens à le dire. C'est une petite merveille, Le Discours. Moi, j'en étais assez bouleversée et je l'ai vu il y a quelques temps. Et il me reste très, très, très en tête. Il y a quelque chose de... Ce n'est pas que rire pour rire. Il y a une belle réflexion, mais qui vient aussi du texte de Fab Caro, il n'y a pas de doute.
Hugo, toi, tu as hypé? Toi, tu es un Fab Cariste?
Ouais, totalement. J'ai adoré ce livre, Le Discours. Et justement, effectivement, ça me paraissait impossible de l'adapter en film. Donc moi, si j'avais dû l'adapter en film, en fait, j'aurais fait l'inverse. J'aurais pas essayé de faire comme le texte, parce que pour moi, on y perd forcément. Et j'ai vu les bandes-annonces que j'ai trouvées catastrophiques, donc ça me donne pas du tout envie. Et je fais une grosse saturation sur Benjamin Laverne, donc je suis pas du tout chaud. Mais bon, avec ce que tu dis, tu me donnes quand même un peu envie, donc je vais peut-être faire l'expérience quand même.
Benjamin Laverne, c'est l'homme fort de la comédie française. Qui aurait cru que ce mec de second rôle est pas toujours... Je sais plus où je l'ai vu. La toute première fois que je l'ai vu, c'était dans une comédie où c'était... il vendait un truc qui vendait des alibis. Ça vous dit quelque chose? Je crois que personne... Rupture pour tous.
Ah.
Alors ça, je peux vous dire que personne ne l'a vu, Rupture pour tous, mais voilà, c'était une machine à vendre des alibis, et ensuite je crois que c'est Le Sens de la Fête qui a été son gros reveal.
Moi je le trouve bien,
c'est la seule chose bien du Sens de la Fête avec Gilles Lelouch, et ça me fait du mal de dire du bien de Gilles Lelouch.
T'es méchante. Non, Jean-Pierre Vébatry,
il y a un problème de rythme,
franchement.
Alban Ivanov.
Oh la cata, non, rien ne va.
Ah, t'es dur. Non. Moi j'ai bien aimé Le Sens de la Fête, surtout Bacri. Ça m'a permis un peu d'affiner mon imitation de Bacri. C'est la gauche. On dit que c'est la gauche. Voilà. Excusez-moi.
Superbe.
Je veux pas m'empêcher de.
Entre le sublime et le gênant. C'est tous les chefs-d'œuvre, ça.
Alors donc bon bah écoute, on dira ça, Le Discours, on ira voir ça, c'est sûr et certain. Le même jour, il y a une comédie que je vais voir parce que je sais que pas sûr que vous y alliez, et moi j'irai parce que je suis là pour regarder toutes les comédies. C'est Opération Portugal avec Jal. Et c'est, alors je vous lis le pitch. Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en 3 jours? Surtout quand on sait qu'en intervention, Hakim est une vraie catastrophe ambulante.
Peter.
Alors, alors honnêtement, tu sais quoi, la plupart des gens, quand je leur lis le pitch, ils déconnectent. Et, mais en fait, c'est adapté d'un... C'est, alors moi, je me suis renseigné. Agile, c'est un mec qui fait du stand-up. Ouais. Et c'est adapté d'un de ses sketchs à lui. Donc moi je veux lui laisser sa chance. Je pense qu'on aurait tort de se priver de comédie en temps qui court.
Donc, ouais, moi, je veux pas avoir d'a priori sur un pitch parce que théoriquement, tout peut faire un bon film.
Tout.
Après, quand même, il y a pas mal de circonstances défavorables, je dirais.
Je crois que le mec qui met le portugais. Je pense qu'on peut être, on peut nager dans des eaux très très moches quand même. Oui.
Ouais, mais là, ça fait un peu. Il y a de l'humour communautaire. Et je n'ai absolument rien contre, mais là, ça fait humour communautaire de communautaire. Donc, enfin, je sais pas. Il y a un truc, ça va très très loin là-dedans.
Ça peut très vite être raciste. Qui, oui, c'est ça.
Soit raciste, soit à un moment donné. À qui ça s'adresse, en fait? Opération Portugal, en fait. C'est-à-dire, vraiment, je me demande qui... est-ce que c'est vraiment toute la diaspora portugaise de France qui est concernée? Est-ce que ça va plus large, sans avoir l'impression de tomber dans une forme de racisme? Je ne sais pas. Je suis très curieuse. Écoute, et
je crois en l'universalité de l'humour. Je me dis que si c'est drôle, ça marchera. Et si ça l'est pas, ça va être un accident industriel. On se téléporte déjà au 13 janvier parce que, mine de rien, il n'y a rien pendant le premier, ils se disent non, il n'y a rien qui sort. Donc, du coup, il y a un film de Bruno Podalides qui s'appelle Les Deux Alfred. Avec Denis Podalides, Sandrine Kiberlin et Bruno Podalides, évidemment.
Ah oui, qui était sélectionné à Cannes, ouais. Je crois.
Sans doute, et surtout, j'ai vu beaucoup de... J'ai vu beaucoup de pas de bande-annonce, mais de making-of sur ce film en disant que pour eux, ils étaient vraiment dans la panade de retarder toujours ce film parce qu'il devait sortir déjà plus tôt. Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème, The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher, à l'essai, a pour dogme pas d'enfant. Et Séverine, sa future supérieure, est une tueuse au caractère éruptif. Est-ce que ça vous inspire?
Oui. Oui, non, mais les Podalides, en général, ça m'inspire. Après, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ouais, tu dis, il y a Kiberlin dedans, c'est ça?
Ouais.
Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt un bon argument. Donc ouais, je suis inspiré, ouais.
Bah, moi aussi, je suis un peu comme Hugo, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que Bruno Podalides, moi, je suis toujours assez cliente, avec plus ou moins de réussite, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fonctionne, un espèce de petit détachement enchanté que j'aime bien.
Un petit truc rêveur chez
ouais,
eux.
Ouais, voilà, il y a un truc...
Tu sais qu'il y aura un regard particulier, que ce serait pas...
Bah, ça, c'est un regard sur les start-up, évidemment.
Ouais, ouais. Après... ouais.
Mais ils ont toujours un petit regard comme ça. Enfin, moi, je repensais à Dieu Berthe, par exemple, où il y avait même quand il me parle de pompe funèbre, il y a toujours ce petit truc un peu... enchanté.
Même Bécassine.
Alors moi, j'avais beaucoup aimé Bécassine, à ma grande surprise personnelle. J'avais énormément... Comme quoi, on ne peut pas juger de tout sur un pitch, quoi. Et c'était vraiment... voilà. Donc là, pourquoi pas les deux Alfred? Moi, je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Puis en début d'année, ça me dit bien. Pour démarrer l'année, ça me dit bien.
Moi, j'irais bien. Par contre, évidemment, j'ai toujours un souci avec les Podalides. C'est qu'il y a toujours un moment où, entre... ils font du bon cinéma et ils se regardent faire du cinéma. Et genre, il y a Comme un avion, par exemple, ça m'était... Comme un avion, j'ai l'impression que c'était un peu trop, genre, on est un peu géniaux et on fait du cinéma comique. Parce...
Ouais.
Moi, ça m'avait pas transformé.
Ouais, il y a peut-être un peu ça, mais j'aimais bien l'idée de traiter ce sujet qui est un tout petit sujet, c'est-à-dire un mec qui fait de l'aviron, quoi. Mais... et ouais, justement, c'est cet esprit-là que j'aime bien, c'est de traiter des petits trucs, des petits micro-événements de la vie quotidienne... Je trouve que c'est là où ils sont forts, en fait.
Alors,
contrairement à quand ils font Bécassine.
Hugo, là, tu parles de tout petit sujet. Ouais. On va être dans le tout petit sujet. C'est Chacun chez soi, le nouveau film de Michel Larocque. Avec Michel Larocque et Stéphane de Groot, parce que je sais que Stéphane de Groot t'a manqué. Si j'avais recevé 1 € à chaque fois que je prononçais le nom de Stéphane de Groot, je pense que c'est bon, on a budgétisé 2 ans d'émission. Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Catherine et Yann, évidemment, c'est Michel Larocque et Stéphane.
Catherine et Liliane ?
Catherine et Yann.
Ah, okay.
Ça aurait été drôle. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaï. La situation ne va pas s'arranger quand leur fille Anna et son copain Thomas viennent de s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. Est-ce que ça vous parle, Périne ?
Non, bah, j'ai repensé à la blague Liliane et je me suis dit que c'était son nom de rappeur. Mais bon, c'était juste ça.
Non, mais si les blagues dans ta tête sont plus drôles que le film, c'est ça compte pas.
En fait, j'ai le même problème, je pense, sur chaque... ou problème ou commentaire sur chacun chez soi que sur tout nous sourit. Déjà, peut-être parce que dans les deux, il y a Stéphane de Groot. Mais voilà. C'est-à-dire que je... On est encore dans cette histoire de comédie de situation. Enfin, je me demande où ça va, ce que ça veut me raconter. Après, ce qui m'intéresse pas mal dans le film, c'est le casting. Alors, pas Michel Larocque et Stéphane de Groot, qui sont pas forcément mes go-to, mais Alice de Langsin et Olivier Rosenberg, ça me plaît. Parce que c'est des visages de la comédie peut-être moins habituels, sauf peut-être Rosenberg quand il fait... la série là sur Family Business. Et voilà, c'est ces deux visages-là qui m'intéressent dans ce type de film. Après, voilà, Michel Larocque, Stéphane de Groot, je ne sais pas.
Voilà, c'est quasi inconnu. Le problème, c'est que je sais qu'avec son cinéma, en tout cas, enfin, ce cinéma-là, on plafonne assez vite, en fait. On sait où sont les... On sait quelles sont les situations, on sait comment ça va se terminer. Je pense pas que le genre va être redéfini par cette comédie. C'est pas quelque chose que je demande à toutes les comédies, mais c'est juste un chouïa de lassitude par rapport au pitch. On se téléporte le 20 janvier, c'est un triomphe avec Cadmerade. C'est l'histoire, alors d'après une histoire vraie, donc ça c'est le moment de l'année où il y a les comédies basées sur une histoire vraie qui sortent. C'est Cadmerade qui joue un acteur en galère, accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.
C'est un film de Cadmerade ?
Non, avec Cadmerade.
Ah, d'accord.
D'Emmanuel Courcol.
Ouais.
D'accord. Pourquoi pas ? Enfin, oui.
Ok.
le risque, c'est que ce soit un peu noyé sous les bons sentiments, comme souvent ce genre de film-là. Il faudrait que ce soit un peu râpeux, quoi, pour que ce soit intéressant. Mais bon, faut voir. Je connais pas bien Emmanuel Courcol, donc...
C'est le mec qui avait fait Cessez le feu, et alors c'est très étonnant de se dire que le gars qui avait fait Cessez le feu avec Romain Duris, qui était quand même pas un film rigolo, passe là-dedans. Mais pourquoi pas ? Après, oui, je suis assez d'accord, j'ai un peu peur du trop-plein de bons sentiments. Mais en même temps, je me dis, quand on me lit le pitch, je ne saurais pas qu'il y a Cadmerade, je ne saurais pas que c'est Emmanuel Courcol, etc. J'ai l'impression de voir un pitch d'une comédie anglaise. Le type de comédie sociale à l'anglaise, c'est-à-dire un peu un truc à la Full Monty ou même là, le récent le Singing Club ou je sais pas quoi. Et j'ai l'impression d'entendre ça. Alors après, je sais que les Anglais sont très forts à ce jeu-là. Est-ce que Emmanuel Courcol peut rentrer en compétition avec les Britanniques ? Je ne sais pas. Mais après, pourquoi pas ? Je suis assez curieuse. Le film était aussi sélectionné à Cannes. C'est ouf, là, le nombre de comédies qui étaient sélectionnées à Cannes et qui sortent bientôt.
Ah bah, il y a toutes les comédies cannoises qui débarquent, là, d'un coup.
Ouais. Et donc, après, je reste curieuse si ça sort un petit peu de son pitch aussi, c'est-à-dire si ça n'est pas juste le truc, le feel-good movie et la belle histoire. Si ça nous raconte peut-être quelque chose, j'en sais rien, moi, peut-être une vraie réflexion sur une deuxième chance ou sur l'univers carcéral, j'en demande peut-être beaucoup. Mais en tout cas, je me dis que c'est typiquement le genre de truc que j'irai voir avec plaisir et pourquoi pas avec ma mère.
Eh bien, écoutez, autre plaisir, après l'enfer d'univers carcéral, l'enfer du couple.
Ah, original.
27 janvier sort Les Cobayes. Avec Thomas Nguijol et Judith Chemla. Et le pitch est assez rigolo. En couple depuis. Enfin, non, pas rigolo du tout, en fait, vous allez voir. En couple depuis le lycée, Charlotte et Adam viennent d'avoir leur premier enfant. Et je vous demande pas de commentaires. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Et les habitudes remplacent peu à peu l'enthousiasme au risque de les séparer. Espérant retrouver l'élan des débuts, ils décident de devenir les cobayes d'un traitement révolutionnaire supposé renforcer le lien et le désir.
Putain!
Le pitch, je suis
chaud. Hein.
Ouais, le pitch me hype un peu. Hein. Puis alors, le pitch et le casting.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire l'idée de la rencontre.
J'ai envie de dire too soon, mais oui, sinon je suis hypé. Ouais, je suis super hypé.
La rencontre Judith Chemla, Thomas Nguijol, Moi, je n'imagine pas Judith Chemla là-dedans. Ou bien si on reprend le même pitch, mais alors de façon ultra dramatique. Et donc, je suis un peu... Ouais, je suis hyper curieuse, en fait.
J'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir ça.
Ouais.
Et donc, toi aussi, Hugo, t'es chaud.
Ouais, bah, en fait, la fin du pitch, ça avait l'air de tirer un peu sur la SF. Et j'aime bien les comédies françaises de science-fiction, c'est mon petit péché mignon.
Oui, comme si les frigos qui parlent, quoi.
Ouais, bon, ça, un peu moins, disons. Enfin, j'étais hypé sur le pitch, mais le if, c'était moyen. Mais oui, c'est le genre de truc que je vais voir, ouais.
Alors, pour moi, la science-fiction... Vous avez vu comment je travaille les enchaînements de film
ouais,
en film,
hein. Putain. Ouais.
Pour moi, la science-fiction, c'est quand il y a 4 films d'une même série que je n'aime pas. C'est Les Tuches 4 qui sort finalement le 3 février 2021. Et est-ce que vous avez vu le trailer qui a été diffusé hier, justement ?
Non.
Oui. J'ai vu celui que tu as partagé, même, sans commentaire.
Ouais, sans commentaire. Et donc, on a une vision, après avoir un peu prédit un peu ce qui allait se passer avec les Gilets jaunes, là, on s'attaque à la Startup Nation, comme 3 comédies sur 4 cette année. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, parce que tout est canon hein, dans Les Tuches, hein, il est vraiment devenu président, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzol. Pourquoi je lis ça ? C'est nul. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
Ok.
J'adore le silence. mais alors, j'ai une question. Dans la bande-annonce, il y a un plan où j'ai l'impression qu'il y a 2 Isabelle Nanty. Est-ce que c'est une femme qui ressemble énormément ou il y a vraiment comme dans Faux-Semblant, il y a deux fois...
Sa sœur Maggie, c'est une sœur jumelle ?
Je sais pas. En tout cas, je sais que le frère est joué par Michel Blanc.
Oui, parce qu'en fait, je me suis arrêté aux 2, moi. Donc, j'ai pas connu Jeff Tuche, président de la République. Donc, en fait, j'ai pas trop compris les tenants et aboutissants du trailer, si je puis dire. Donc, après, les blagues ont pas l'air géniales. Hein,
non, ça a l'air un peu écrit vite fait. Ça a l'air d'être le premier draft qui a été passé au cinéma. Moi, j'ai juste un peu de... Je veux pas émettre d'opinion sur le film. Perrine, tu vas pas manquer de donner ton avis. Mais je veux pas émettre d'opinion. Mais par contre, je veux envoyer tout mon soutien aux acteurs qui sont prisonniers de ça, quoi. Et qui ont sans doute envie de faire autre chose. Je pense au mec là, qui fait Wilfried. Wilfried Tuche, là, le rappeur.
Pierre Lottin.
Ouais, Pierre Lottin. Sarah Stern, la pauvre, elle fait le même rôle depuis tout le temps. Je pense surtout à Théo Fernandez. Je pensais qu'il avait.
Mais ils sont en train de devenir riches avec ça.
Je pensais que Théo Fernandez, il avait réussi à s'exfiltrer quand même dans le 3, parce que le 3, tu sens qu'il a fait ses scènes par webcam et qu'il voulait plus en être. Et là, il revient dedans. On le voit pas dans le trailer, je crois, mais
ouais, c'est les Marc Hamill et Carrie Fisher du cinéma français.
Hein. Un petit peu. Voilà, bon, bah, les.
Alors, je confirme, je viens de regarder la fiche, là. C'est bien Isabelle Nanty qui joue Cathy Tuche et Maggie, sœur de Cathy. Et Michel Blanc, pareil, il joue 2 rôles. Ah non, il joue qu'un rôle, pardon.
Ah non, il peut pas jouer.
Non, parce qu'en fait, la description du rôle, c'est Jean-Yves, beau-frère de Jeff et Cathy et époux de Maggie, sœur de Cathy. Mais en fait, c'est un seul rôle.
Voilà.
Ah, mais merci pour le Tucheverse, merci de toutes ces précisions.
Il faut être précis parce que ça commence à être compliqué au bout de 4 épisodes.
Et exactement. Alors, il reste encore quelques petits trucs, mais est-ce que l'origine du monde de Laurent Lafitte, est-ce que quelqu'un l'a vu ?
Moi.
Tu l'as vu ?
Ouais.
Est-ce que dis-nous un nombre d'étoiles sans nous spoiler.
Sur combien d'étoiles ?
Sur 3.
10.
Ah, t'as vraiment aimé.
Ah,
d'accord,
oui.
Ok.
Moi, j'en ai pleuré.
Ah ouais. Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant, est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Donc là, la rédaction s'engage.
Ah ben moi, c'est un film qui énerve beaucoup de gens.
Oui, c'est ce que j'ai entendu en fait.
Ouais, mais je comprends pas en fait comment on peut prendre ce film au premier degré. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'un gars dont le cœur a arrêté de battre et qui continue à bouger et à être vivant. Donc à partir de là, c'est-à-dire à partir de ce point, vous ne pouvez pas prendre ce film au premier degré. Vous ne pouvez pas considérer ça comme réaliste. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est impossible. Et donc on peut pas rester vraiment au ras des pâquerettes quand on regarde ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie avec des répliques qui pour moi sont déjà cultes et que que j'emploie assez régulièrement maintenant dans ma vie avec des gens qui l'ont vu aussi. Et il y a notamment une scène où Karine Viard engueule Vincent Macaigne en le menaçant de trucs abominables. J'ai tellement ri que toute la salle s'est retournée sur moi. Et je n'ai pas entendu les répliques suivantes pendant 1 minute 30 tellement je riais. Moi, en tout cas, ce film...
Ah, mais ça, c'est des réactions comme on les aime.
Ce film est juste pour moi très, très brillant. Et justement, on nous met dans un malaise, un vrai malaise, qui est justement la question de... ça s'appelle L'Origine du Monde, ce n'est pas pour rien. C'est un film aussi sur la psychanalyse. C'est comme si c'était la théorie de Freud appliquée à l'image. Donc, bien sûr que c'est repoussant. C'est-à-dire que la théorie de Freud, enfin les idées de Freud, c'est très bien quand elles restent du point de vue théorique, du point de vue de ce qui se passe dans la tête. À partir du moment où on les applique dans la vraie vie, ça devient impossible et ça devient horrible. Et donc c'est cruel, c'est ultra violent, c'est pas physiquement violent, hein, c'est violent dans les propos et ça n'épargne personne. Et je n'avais jamais vu, je pense, ou rarement, comment elle s'appelle, pardon, j'ai vraiment des trous de nom, Nicole Garcia. Voilà, Nicole Garcia, qui est juste extraordinaire, et qui a une réplique qui me fait toute ma... tout. Donc vraiment, ce film est, pour moi, assez exceptionnel, et j'ai hâte que tout le monde voit, j'ai hâte que tout le monde continue à s'énerver dessus pour aucune raison valable. Mais surtout, j'ai envie de le revoir et de le re-revoir pour continuer à rire.
Mais j'ai pas compris pourquoi les gens s'énervent, en fait. C'est les propos qui sont tenus ou c'est la façon dont c'est fait ?
C'est un peu la façon dont c'est fait et aussi les propos. En fait, l'idée de L'Origine du Monde, c'est que le gars, pour peut-être redémarrer son cœur, il a un truc à faire. Et qui, je peux pas vous le dire parce que ça serait vous spoiler assez...
Mais c'est de la SF, et donc Hugo, il aime bien. Là.
Oui, c'est de la SF. C'est entre la SF et le, comment dire, un petit peu le chamanisme.
Fantastique, là, je dirais.
Ouais, c'est un peu fantastique, chamanique. Enfin, il y a un truc là-dedans.
J'aime aussi.
Et donc, il doit faire un truc, mais un truc qui est ultra tabou. Et en même temps, il y a tout un truc... En fait, ce qu'ils en veulent, c'est qu'on dit qu'il y a une... Par exemple, ce que j'entends principalement, c'est qu'il y a de la violence gratuite sur une personne âgée. Et que c'est de la violence faite aux femmes. Et tu fais... C'est tout le pitch, en fait. C'est tout le pitch. Ça n'a aucun sens que vous en vouliez au film d'être ça. À aucun moment, le film ne fait l'apologie de ça. Il nous montre bien l'absurdité de la chose.
En fait, ça me rappelle l'émission qu'il faisait sur France Inter ou Culture, je ne sais plus, avec Zabou Breitman.
Oui, mais oui,
c'était
c'est
ça. Des faux psy, justement, qui répondaient aux auditeurs. Oui. Et il y a plein de gens qui s'étaient insurgés en disant « mais c'est scandaleux de tenir des propos pareils », alors que c'était de la blague. Quoi.
À votre écoute, coûte que coûte. Et c'était génial, ouais. Cette émission. Et exactement, c'est le même principe qu'à votre écoute, coûte que coûte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend ce film au sérieux, c'est qu'on n'a pas compris ni l'absurdité, ni justement toute cette idée de la mise en image d'une espèce de théorie freudienne. Et surtout, on n'a pas compris l'humour. Et surtout, on ne sait même pas regarder les images. Moi, ça m'inquiète. Comment on peut prendre au premier degré quelqu'un qui n'a plus son cœur qui bat, mais qui bouge ? Les gens ! C'est pas possible ! Donc, voilà. C'est juste...
Ok, tu m'as convaincu, j'irai le voir. Mais je sens que je vais détester, je sais pas pourquoi.
Ah bah peut-être, tu vas peut-être détester, mais tu peux pas... Enfin, il y a plein de choses qu'on peut pas vraiment pas prendre au premier degré.
Le même jour, il y a la bataille du rail avec Pierre Lottin, qui joue un squatteur professionnel, qui doit remplacer un pote dealer pour la nuit s'il veut crêcher chez lui. Le problème, c'est que cette personne, donc jouée par Franck Lottin, n'a jamais dealé. Et c'est un peu Hugo Alexandre. Il se retrouve à une tâche qu'il ne connaît pas et qu'il va devoir découvrir. Il n'est pas prêt d'oublier ses nouveaux clients plus tarés les uns que les autres.
Ouais. Bah, si c'est mon biopic, je le prends. Hein.
Alors, j'ai décidé de m'arrêter en février quand même, parce que sinon on peut aller loin. Il reste encore Aline. Aline, que tu as vu encore ?
Oui.
Oh là là, mais t'as tout vu, c'est incroyable.
Ah, mais ça, c'est superbe. C'est grand.
Donc, c'est un bon film. Il sort juste après. Ouais, c'est une comédie dramatique en même temps.
Ouais, c'est drôle parce que ça reste Le Mercier et l'univers de Le Mercier. Mais ce qui est fabuleux dans Aline, c'est que moi j'avais très peur en allant voir le film en me disant bon, j'ai un peu peur que ça soit une sorte de un peu parodique sur Céline Dion et que on en fasse une blague en fait. Et ça n'est pas du tout le cas. C'est très c'est un bel hommage à Céline Dion tout en racontant une histoire sublime d'une femme très talentueuse mais trop ordinaire peut-être pour l'assumer seule et qui passe d'une bulle familiale à une bulle amoureuse et qui à la fin se retrouve seule. C'est terriblement beau. C'est, moi, j'ai passé mon, j'ai, je pense que j'ai pleuré pendant tout le film. C'est très beau. Et en même temps, c'est très, très drôle parce que ça reste la capacité comique de Valérie Le Mercier et inénarrable. Franchement, c'est très fort.
Eh bien, écoutez, ça va faire, je pense, un bon début de saison quand même. Parce que, enfin, un début de saison étrange parce que toutes ces comédies devaient sortir parfois à d'autres moments. Elles ont été décalées. Donc, du coup, ça nous donne une espèce de bouillon. Un peu anachronique. Il y a des films dramatiques qui sortent pour la Saint-Valentin. Il y a le Noël qui sort sans Père Noël, mais enfin sans film avec deux Pères Noël, mais avec le discours. Enfin, vraiment, ça va être une fin d'année étonnante au cinéma.
Ouais, et d'ailleurs, ça a repoussé des films qui étaient prévus pour décembre-janvier, comme OSS ou Kaamelott, ouais. Je crois aussi.
Bah, Kaamelott, c'était quand?
Kaamelott, c'était en novembre. Les gars, ce que je vous propose, c'est de me balancer une recommandation, quelle qu'elle soit. Et quand on faisait les préparatifs de cette émission, j'ai dit à Périne, tu peux faire n'importe quoi. Je lui ai dit, tu peux même faire un TikTok si tu veux. Et elle n'est pas allée jusque-là, je suis certain. Hugo, qu'est-ce que tu voudrais recommander aux gens? Un truc pour les divertir, un truc comique.
Ouais, alors je vais recommander un truc que j'ai découvert sur Disney+. C'est une série documentaire qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Et donc le principe, c'est très simple. C'est un format d'une demi-heure où Jeff Goldblum traite un sujet aussi divers que la piscine, les baskets ou les jeux vidéo. Et donc il va rencontrer des gens... passionné par le sujet, et puis il va apprendre des trucs avec nous. Et donc, faut vraiment beaucoup aimer Jeff Goldblum, parce qu'il fait du Jeff Goldblum à 1000%, quoi, il cabotine à fond. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu dandy, détaché, un peu à l'anglaise, alors qu'il n'est pas du tout anglais. Et donc, il a toujours un regard très bienveillant et très ouvert sur les gens qu'il rencontre, mais en même temps, il est très détaché. Donc, tu te demandes s'il n'est pas un peu en train de se foutre de leur gueule quand même. Et notamment un épisode où c'est sur le jeu vidéo, je crois, et c'est un peu le jeu en général, et il est dans une espèce de convention de jeu de rôle, avec des gens déguisés en chevaliers et tout, et puis il lui propose de jouer un rôle et tout, c'est assez fort. Donc il y a une dizaine d'épisodes, ça mange pas de pain, c'est assez drôle à regarder. C'est sur Disney+, c'est Le Monde selon Jeff Goldblum.
Bah écoute, je note, surtout que je viens de finir de regarder Mulan, donc j'ai besoin de me divertir. sans commentaire. Périne, qu'est-ce que tu as à nous recommander?
Moi, on va sur la plateforme d'Arte.
J'ai cru que tu allais vraiment sortir un TikTok.
Je suis désolée pour TikTok, mais j'essaie encore de comprendre exactement comment ça marche. Mais donc, je propose la plateforme d'Arte qui a balancé depuis début octobre plusieurs séries britanniques gratuitement. C'est absolument. Il y a des petits chefs-d'œuvre. Hein. Je vous recommande notamment Inside Number 9, qui est un chef-d'œuvre de drôlerie, d'expérimental et de weird. C'est absolument brillant. Mais sinon, là, je vous recommande une autre série qui débute le 18 décembre sur la plateforme, qui s'appelle Mum en anglais. Je disais tout à l'heure, ce qui était beau dans Aline, c'était ce mélange à la fois très respectueux, très beau, très doux, très émouvant sur la vie de Céline Dion, et en même temps l'humour de Valérie Le Mercier. Bah là, c'est un peu pareil dans Mum, c'est-à-dire que c'est une série qui est terriblement touchante, avec des pas grand-chose. Le réalisateur s'attarde sur ce qu'on ne filme jamais, des regards, des silences, pour finalement dire quelque chose de notre intimité. Dans tous les épisodes qui durent 20 minutes, on a toujours les mêmes personnages. Une mère qui vient d'être veuve, son fils, sa belle-fille, ses beaux-parents, son frère et son ami d'enfance. Et c'est un petit peu l'univers du quotidien. Qu'est-ce que c'est que le quotidien? Ces petites victoires, ces petites méchancetés, ces petites mesquineries. Et c'est absolument hilarant, mais surtout très bouleversant. Donc, je vous recommande très, très fortement et très vivement Mum, qui a un petit côté un petit peu sartrien, puisque l'idée, c'est que l'enfer, c'est les autres, mais sans les autres, ben, on se ferait bien chier. Donc, vraiment, Mum, ça vous fera du bien. Et je pense qu'on a tous besoin, en cette sortie, en tout cas vers la fin du confinement, on a tous besoin d'un petit peu de bonheur.
Et pour ma part, je vais recommander un petit jeune qui débute, à savoir Jean-Paul Belmondo.
Ah oui.
Dont 16 films ont été mis sur Netflix. Et donc, c'est plutôt cool. Bon, alors, tout n'est pas dans la grosse rigolade, parce qu'il y a quand même des films de... il y a quand même des films de Verneuil, et enfin voilà, tout n'est pas de l'humour, mais il y a quand même Le Magnifique, il y a Cartouche, il y a surtout il y a L'As des As de Gérard Horry, qui est quand même C'est un film qui se moque de Hitler. Il y a le Guignolo. Enfin bref, il y a genre 16 films. Et la bonne moitié, une bonne moitié d'entre eux, c'est quand même des comédies. Donc ça vaut le coup. Et même quand c'est des films un peu plus péchu, j'ai envie de dire, de Belmondo, en général, t'as toujours moyen de te marrer parce qu'en fait, il dégage un truc très... Même quand il joue un flic à la dure, il dégage un truc très drôle, en fait, Belmondo. Et qui je suis pour recommander Belmondo? Vous avez déjà tous vu les films de Belmondo. Ça vaut le coup de se les revoir. Voilà, je vous recommande tout Belmondo qui est disponible sur Netflix. En plus, ils ont rajouté À bout de souffle et Pierrot le fou. C'est pas le même genre de déconne, mais ça vaut le coup de le, ça vaut le coup de voir.
Et c'est un peu déconnant quand même, donc.
Oui, clairement, clairement, ça peut être de la blague. Merci à vous deux. Je vous laisse retourner à vos plaids. Peut-être que vous les avez pas quittés en fait.
Pas du tout.
Non.
Bah non.
Ni mon pyjama d'ailleurs.
T'es dans ton pyjama plaid, ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est une semaine qui commence bien. Je vous remercie, les gars. Merci d'avoir été là. Bah, écoutez, c'était MDR. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie la personne qui va réaliser cette émission à distance. Je t'embrasse. On t'embrasse tous. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. On se retrouve avec un prochain MDR. Il y a encore une émission à venir avant la fin de l'année, donc restez à l'écoute. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.